Radio Barc 6e pour notre deuxième partie. Notre sommaire, Michel, a prévu un contre-regard, ou un regard, ou un contre, oui. Au choix, sur l'ISF en région.
La région Occitanie, oui. Parce qu'après la polémique sur la réforme de l'ISF, certains parlementaires ont demandé au ministre de l'économie et du budget, notamment du budget, d'avoir un minimum d'informations sur qui payait, en fait, combien d'assujettis à l'ISF en France. Et donc le ministère a bien travaillé, puisqu'il a sorti, une série de stats qui permet de savoir connaître plutôt le nombre d'assujettis à l'ISF dans les villes de plus de 20 000 habitants seulement. Alors je dis seulement pourquoi, parce que il est bien connu que dans certaines petites niches, je prends l'exemple de Collioure, notamment sur notre région, ou Argelès, oui, par exemple.
Oui, hein, il y a quelques fortunes.
Il y a quelques petites niches là,
même sous l'ISF. Sous les 20 000 habitants.
Sous les 20 000 habitants. Mais bon, passons quand même. Ça donne une petite idée sur sur les villes de la région où se concentrent les patrimoines les plus élevés. Alors quelques chiffres pour nos auditeurs. Tout d'abord celui du classement des villes qui ont le plus grand nombre, plus ou moins grand nombre d'assujettis à l'ISF. On prend la grande région Occitanie, quoi. Hein. Donc évidemment, pas de surprise, Toulouse.
Toulouse, of course.
Toulouse, numéro 1. Montpellier, numéro 2. Et puis ensuite, si on vient vers notre région, on voit Nîmes qui arrive là, Perpignan, Béziers, Agde, et derrière Agde, Narbonne. Par contre, ça c'est pour le nombre d'assujettis à l'ISF. Par contre, si on classe effectivement ces villes en fonction du patrimoine moyen,
oui, le volume payé,
la richesse par assujetti, on n'a pas du tout en fait le même classement. D'ailleurs, au plan de la grande région Occitanie, nos auditeurs vont être surpris de constater que tout en haut du podium figure la ville voisine de Béziers. Béziers. Je reviendrai sur Béziers. Et que à numéro 2, on trouve Montauban. Et en numéro 3, Millau. Alors, Millau, on comprend pourquoi. C'est les anciennes grandes familles qui étaient dans la Ganterie, qui étaient une industrie de luxe.
Ceux qui en restent.
Et au fil du temps, certains patrimoines, on peut l'expliquer comme ça. De la même manière, Béziers, qui fut longtemps, quand même, il faut le rappeler ici à nos auditeurs, la ville la plus importante et la plus riche de l'ex-Languedoc-Roussillon pendant de nombreux siècles, jusqu'à pratiquement au début du XXe. Ce que peu de gens, en tout cas les jeunes générations, savent, me semble-t-il. De sorte qu'il y a encore de beaux restes, c'est la seule explication que je puisse donner à ce classement qui peut paraître paradoxal. Je vais y venir sur le côté paradoxal de ce classement, et qui, effectivement, montre bien qu'il y a encore de beaux restes dans la ville de Béziers. Pour ce qui concerne Narbonne, qui se trouve juste derrière Agde, qui a vu d'ailleurs, entre parenthèses, son nombre d'assujettis à l'ISF depuis 2014 augmenter de 15 unités, ce qui n'est pas rien, ça monte un petit peu. La valeur du patrimoine moyen n'est que de, de 2,4 millions. Par assujetti, ce qui fait à peu près une imposition de 8 700 euros d'après mes chiffres.
Pas trop de chiffres parce que c'est difficile.
Ce qui est intéressant, c'est de voir
Le paradoxe.
Le paradoxe de Béziers, en fait, Jean-Claude, c'est que c'est la ville, en fait, du Languedoc-Roussillon, Béziers, qui certes est au premier rang de la grande région Occitanie en matière de patrimoine moyen par assujetti à l'impôt sur l'ISF, mais qui est aussi la ville de l'ex-Languedoc-Roussillon, qui a la part de ménage fiscalisé le plus bas de l'ancienne.
Ça veut dire qu'il y a de grands écarts.
Ça veut dire qu'il y a une polarisation sur Béziers aux deux extrêmes, qui est particulièrement
riche et pauvre.
Qui est particulièrement significative de la réalité économique et sociale de cette ville, et qui peut expliquer qui peut expliquer. C'est une hypothèse que je formule ici. Hein, comment dirais-je, la dynamique politique contemporaine de cette ville et du type de partis qui aujourd'hui font figure de partis gestionnaires de cet ensemble. Je ne fais pas de commentaires là-dessus.
Mais cela dit, ça remonte très loin et bien avant l'arrivée de M. Ménard.
Bien sûr, mais c'est un phénomène. Alors, non seulement la part des ménages fiscalisés dans cette ville est la plus faible de l'Aix-en-Roussillon, mais le revenu médian aussi est le plus faible, pour encore illustrer cette polarisation à l'extrême. Donc, voilà pas ce détail, mais cette information que je veux donner, parce que quand on rapproche les trois villes de l'ex-triangle d'Oc que j'avais promis à l'époque et qui maintenant est le cœur du Languedoc-Roussillon, Carcassonne, Béziers, Narbonne, on se rend compte quand même, indépendamment des autres chiffres que j'ai évoqués que j'ai commenté dans d'autres chroniques, qu'on est dans une région là au cœur de ce littoral et à la jonction avec la Midi-Pyrénées qui souffre quand même de handicaps sociaux et économiques à l'évidence importants
et durable.
Chiffres sont significatifs effectivement de cette situation.
Ouais. Alors pour terminer cette deuxième partie, Areva, c'est un nom que tout le monde connaît bien maintenant en Narbonne. C'est à Malvézy, mais maintenant à Jadis on disait Malvézy, maintenant on parle bien d'Areva.
Oui, et on en parle, y compris ailleurs, un journal dit de référence, Le Monde, a sorti deux articles d'ailleurs de qualité sur le sujet, non pas équilibré, mais mettant toutes les données techniques, économiques, environnementales sur la table, de manière, je dirais, non partisane, c'est-à-dire de manière rationnelle.
Est-il possible non partisan dans un combat comme celui-ci, aussi complexe, avec des chiffres aussi contradictoires?
Oui, mais c'est vrai que quand on est parisien, quand on travaille pour le journal Le Monde, on a une distance par rapport au terrain qui permet peut-être effectivement d'avoir ce regard un peu plus détaché, un peu plus rationnel,
Le contraire de la distance, la proximité, c'est ce qui fait que beaucoup de Narbonnais se sont élevés contre le projet.
Voilà, le problème aussi N'est pas que ce soit élevé, qu'ils aient contesté effectivement le projet, c'est la manière dont cela a été fait. Je l'ai déjà écrit dans mon blog, je l'ai dit à deux ou trois reprises, me semble-t-il, à cette radio. On n'a pas, je vais certainement me faire critiquer pour ces propos, mais je dis qu'on n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'envoyer au casse-pipe, passez-moi l'expression, des quantités de gens de bonne foi, avec comme seul argument, si cette usine, ce mode de traitement sort, il va y avoir des cancéreux pratiquement à tous les coins de rue, des maladies qui vont déformer les corps, vont se développer. Bref, diffuser une peur sur fond d'irrationalité qui, aujourd'hui, par exemple, font que tous ces gens-là se retrouvent coincés, si je puis dire, intellectuellement, psychologiquement et affectivement, par la décision du préfet, qui après avoir consulté le comité départemental, reçu les avis d'experts et pas des moindres, disant en substance que d'un point de vue technique comme d'un point de vue de la sécurité, il n'y avait pas de gros problèmes posés au contraire par cet investissement, et qui maintenant se retrouve effectivement dans une situation où ils n'ont rien à dire, sinon une chose très simple, comme souvent dans ce genre de situation, c'est un complot orchestré évidemment par l'État, qui a envoyé ses experts, dont le préfet est un serviteur, Areva est financé par les pouvoirs publics, et puis d'ailleurs, j'ai lu ça sur les réseaux sociaux, monsieur le Premier ministre Gérard Philippe a été à un temps aux relations publiques du groupe en question, donc forcément les dés étaient pipés ça devait se faire.
Voilà, c'est pas Gérard Philippe, c'est Édouard.
Pardon, je dis pourquoi Gérard Philippe, mon Dieu.
Illustre.
Encore que la le
distinguo. Quel est le plus illustre aujourd'hui?
Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que même une Madame Arditi, à l'époque, je me souviens, dont sa voix n'a pas été entendue quand même. Elle a été noyée, effectivement, si je puis dire, par d'autres instances et d'autres réseaux environnementaux. Disait elle-même que la quantité de NOx dont Monsieur Obrézius, enfin, dont Monsieur Maurice, là, cet Obrézius disait que c'était une catastrophe. Bon, la quantité de NOx qui aujourd'hui.
Oui, là on voit tout le monde, personne ne voit ça.
Mais c'est l'oxyde de carbone, c'est ce qui sort des tours d'échappement des voitures, pour aller vite, quoi. En gros, quoi.
Bon,
Et bien que Monsieur Maurice, qui habite à Armissant, entre l'autoroute, en fait, et la clap, recevait pratiquement par an 600 tonnes de NOx.
Il y a eu une telle enflure et une telle boursouflure.
Non, mais je caricature à l'extrême, en fait, le propos. C'est pour dire qu'effectivement, encore une fois, il faut, dans ce genre de domaine, en fait, qui est très sensible, très sensible, il faut raison garder, tout simplement, et ne pas jouer sur la peur, en fait, la passion, effectivement, des hommes et des femmes.
Remarquons quand même que dans la vie du préfet, dans l'autorisation du préfet, puisque c'est le cas, il y a quand même un certain nombre de restrictions un peu supérieures à ce qui était prévu.
Ce qui démontre.
Donc il n'y a pas de fumée sans feu.
Ça veut dire tout simplement que le préfet prend en compte un certain nombre de remarques qui ont été faites pas tout à fait justifiées et que un, il demande des contrôles plus fins sur certaines particules et que deux, surtout, en fait, il met en place un comité de suivi, effectivement, de suivi local, avec les gens de la société locale pour bien vérifier au fil du temps qu'effectivement, ce qui a été prévu par le procès en question sera respecté. Voilà, au terme de cette procédure-là, ça a été entendu de manière parfaitement rationnelle. Reste maintenant,
maintenant que, puisqu'on doit marquer une deuxième pause, que cela sera respecté et que ça va un petit peu rassurer ou calmer.
Et que surtout, en fait, les gens qui ont, les gens et les organismes qui ont participé de ce combat participeront eux aussi, effectivement, à cette instance de contrôle pour s'assurer qu'effectivement ça se passe bien.
Voilà. Et on marque une deuxième pause. Dans une troisième partie, je le rappelle, nous retrouvons Guillaume Heras, maire de Saint-Marcel, vice-président du Grand Narbonne. À tout de suite.